Quand on a fait un état des lieux de toute la littérature existante sur Boko Haram, et on s'est aperçu qu'il manque un segment. C'est le récit de Boko Haram de l'intérieur, c'est-à-dire que comment Boko Haram est organisé, comment s'organise la vie quotidienne, comment le mouvement djihadiste qui sévit au Nigeria, au Niger, au Tchad et au Cameroun, comment il est organisé de l'intérieur. Ce segment-là est manquant. Donc, nous, on a choisi de le raconter, de faire le récit de Boko Haram de l'intérieur à partir des témoignages d'ex-répentis, c'est-à-dire que d'ex-combattants plutôt, des répentis de Boko Haram, c'est-à-dire des combattants qui sont allés dans le rang de Boko Haram, qui ont combattu pour certains pendant 2, 3, 4, 5, voire 6, 7 ans, qui sont revenus au Niger à la faveur de ce qu'on a appelé le programme Repentir contre Pardon. On les a rencontrés dans le centre de déradicalisation, de formation professionnelle et de réinsertion sociale que le Niger a ouvert à Goudoumaria. C'est là qu'on les a rencontrés, on a recueilli leurs témoignages. Et à partir de là, on a construit le récit de Boko Haram à partir de l'intérieur. Et c'est ça qu'on offre aujourd'hui aux lecteurs de notre ouvrage. Et en plus de ce récit de l'intérieur, on leur offre la possibilité de savoir pour la première fois comment Mahamat Nour, qui est le numéro 2 de la secte de l'aile, parce que comme vous savez, Boko Haram a connu une session, il y a deux ailes. Il y a une aile qui est dirigée par Shekau, qui est dans la forêt de Sambisa, et une aile rivale qui est dans le lit du lac Tchad, avec à sa tête Al-Barnaoui et Mahamat Nour. Mahamat Nour est mort, et jusqu'ici, personne n'a su le récit exact de conditions de son décès, et nous avons profité justement de cet ouvrage pour recueillir le presse qui a été prononcé après, avant son exécution. Et nous racontons, nous avons versé ces circonstances de la mort dans la partie annexe de notre ouvrage. En plus de tout cela, notre lecteur pourra lire avec beaucoup d'intérêt les liens entre les liens historiques et les liens actuels aussi entre l'est du Niger et le nord-ouest du Nigeria, c'est-à-dire entre la région de Diffa et l'État du Borno, entre la ville, la capitale régionale de la région de Diffa, et puis Maïdougouri. Donc on a tous ces éléments qui sont mis à la disposition de notre lecteur, et je pense qu'il trouvera tout son compte et tout son plaisir à lire cet ouvrage-là.
Concrètement, ces liens se présentent comment?
Non, il y a des liens historiques, comme vous savez, et comme dans beaucoup de pays africains, c'est le colon qui a tracé la frontière entre la région de Diffa et le Borno. Toute cette entité était commune. Elle appartenait à ce qu'on a appelé le Kanem Borno, l'État du Borno ou le Kanem Borno, qui s'étend depuis Maïdougouri jusqu'à la frontière avec le Tchad, avec la frontière avec la Libye. Cet ensemble-là était un ensemble unique. Et aujourd'hui, il y a encore des vestiges de cette communauté d'appartenance, puisque la monnaie qui circule dans cette partie du Niger, c'est beaucoup plus la Naira que la monnaie du Nigeria, que le franc CFA. Et il y a des liens économiques, il y a aussi des liens sociaux, il y a aussi des liens personnels, puisque c'est la même communauté. C'est les Kanuri du Niger, c'est les Kanuri du Nigeria, c'est les Kanuri du Tchad, c'est les Kanuri du Cameroun. Donc il y a tous ces liens-là qui sont imbriqués et qui ont permis à Boko Haram, justement, de prospérer, de pouvoir s'organiser, de pouvoir se faufiler, de pouvoir jouer la vigilance, parce que c'est les mêmes ethnies. Et aujourd'hui encore, malgré la division administrative entre le Niger, le Tchad, le Cameroun, il y a ces liens-là culturels, ces liens ethniques, ces liens économiques qui sont encore imbriqués. Je prends un exemple. Vous savez que depuis quelques semaines, le Nigeria a fermé sa frontière avec le Niger, avec le Tchad, mais cette fermeture est artificielle parce que les liens persistent et le Nigeria ne peut pas, par exemple, mettre un soldat sur sa frontière avec le Niger parce que c'est 1600 kilomètres. Donc il y a cette communauté de liens, cette communauté d'appartenance qui fait que justement Boko Haram a su très facilement passer du Niger au Nigeria, du Nigeria au Tchad, du Tchad au Cameroun, etc., etc. Parce que il y a des liens historiques qui ont permis à Boko Haram de pouvoir s'engager dans son entreprise terroriste.
Comment justement Boko Haram parvient à gonfler ses rangs au niveau du recrutement?
Oui, il y a d'abord, je pense qu'une des raisons qu'il faut souligner dans le recrutement, la possibilité de recrutement de Boko Haram, c'est le terreau favorable que Boko Haram a trouvé. Que vous prenez le sud-est du Niger, le nord-est du Nigeria, le nord du Cameroun, le bassin du lac Tchad, dans toutes ces régions-là, il y a un terreau favorable parce que les gens sont pauvres parce que la jeunesse n'a pas de perspective d'emploi, parce que il y a le désœuvrement. Donc, quand Boko Haram est arrivé, le mouvement a trouvé un terreau favorable au recrutement. Ensuite, Boko Haram a utilisé un certain nombre d'arguments, à la fois la possibilité pour les jeunes, en s'enrôlant dans ses rangs, de pouvoir gagner un peu d'argent. Les premiers qui ont été recrutés dans la région de Difa, par exemple, sont partis parce que ils espéraient que Boko Haram leur donne une moto, leur donne une prime d'arrivée, leur donne une épouse, etc. Donc, il y a toute cette dimension-là qui a permis à Boko Haram d'intéresser les gens, de les intégrer, de leur miroiter un avenir meilleur. Ensuite, il y a maintenant une autre catégorie de combattants que nous avons trouvé dans les rangs de Boko Haram, qui est celle des gens qui ont adhéré à du religieux de Boko Haram, qui ont estimé que Boko Haram avait un discours idéologique qui leur convenait et qui ont rejoint les gens de Boko Haram. Et puis, à côté, il y a aussi des gens qui sont partis dans Boko Haram par calcul, en disant que, bon, c'est intéressant d'aller dans Boko Haram parce qu'on pourrait gagner de l'argent, on pourrait faire des affaires. Donc, il y a toute cette catégorie-là, tous ces arguments qui ont été mis ensemble par Boko Haram pour pouvoir recruter des jeunes. Et une fois dans les rangs de Boko Haram, il y a une organisation du travail qui fait que, bon, certains sont producteurs agricoles, certains sont intermédiaires, ils revendent le butin de guerre que Boko Haram a conquis, certains sont infirmiers, certains sont mécaniciens dans les rangs de Boko Haram. Il y a toute cette spécialisation du travail. Et à chaque fois que les nouvelles recrues arrivent, on essaie de les mettre dans une catégorie. Soit ils sont des combattants à qui on donne une instruction militaire, soit ils sont producteurs agricoles, on leur confie la production de la nourriture pour l'autoconsommation du groupe et pour la revente sur le marché, soit ils ont une activité. Donc c'est tout ça qui explique pourquoi Boko Haram a pu continuer à recruter des jeunes dans les quatre pays, parce qu'il n'y a pas que le Nigeria, Boko Haram a recruté des gens au Niger, à recruter des gens au Tchad, à recruter des gens au Cameroun.
Est-ce que c'est un mouvement qui jouit encore du soutien au sein de la population?
Non, je pense qu'aujourd'hui, Boko Haram n'a plus de soutien de la population, elle n'a plus d'adhésion populaire parce que les gens, ceux qui sont partis et que nous avons interrogés d'ailleurs pour le besoin du livre, sont revenus totalement désillusionnés. Ceux qui sont partis en pensant qu'ils peuvent gagner de l'argent, ils n'ont pas gagné cet argent. Ceux qui sont partis en pensant que Boko Haram a défendu une idéologie religieuse à laquelle ils peuvent adhérer sont revenus dessus, eux aussi, parce qu'ils se sont aperçus que dans le mouvement, il y a beaucoup de brutalité et il n'y a pas la promotion des valeurs de l'islam, puisque le mouvement fait des exactions, tue des innocents, exécute des gens, égorge même des gens qui n'ont rien fait. Donc aujourd'hui, il y a une vraie rupture entre Boko Haram et les populations, parce que vous savez que Boko Haram a organisé des raids sur des villages, et quand ils attaquent un village, ils tuent de façon indistincte. Ils ne tuent pas que les représentants de l'État ou de forces de l'ordre, ils tuent les populations qui n'ont rien fait. Ils dépouillent les populations, ils leur prennent le peu de biens qu'ils ont aujourd'hui. Je pense que tout ce qu'il y a dans la région, c'est la peur de Boko Haram, mais il n'y a pas d'estime de Boko Haram. Il y a plus de peur de Boko Haram que d'estime de Boko Haram. Et sur ce plan, sur le plan de la conquête de l'opinion, vraiment, Boko Haram je pense qu'a totalement tout perdu, en tout cas dans la région qui a fait l'objet de notre enquête pour le besoin de cet ouvrage.
Ces déserteurs qui sont pris en charge dans ces camps de déradicalisation, est-ce qu'ils ne risquent pas d'être exposés une fois retournés chez eux?
La question est pertinente. Vous savez que quand le Niger a lancé le programme Repentir contre Pardon, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de personnes qui étaient dans le mouvement, qui étaient dessus, qui cherchaient à partir, en ont profité pour partir. Mais ils n'ont pas pu partir, comme ils le racontent dans le livre. Ils n'ont pas pu partir comme ça, en plein jour, devant tout le monde. Non, parce que ils auraient été exécutés. Donc, ils ont dû se cacher, se faufiler pour partir. Boko Haram interdit à ses militants, à ses combattants, de pouvoir quitter pour rejoindre le programme. Donc, il est évident que pour les gens qui sont des repentis, Boko Haram les considère comme des traîtres. C'est une partie des rangs de mouvement est considéré comme un acte de trahison. Et ceux qui ont été surpris pendant qu'ils essayaient de partir ont été pour la plupart exécutés. Ceux qui ont eu la chance ont été punis, ont eu des punitions assez graves. Mais la plupart des gens ont été considérés comme des traîtres, comme des déserteurs. Ils ont été exécutés. Ceux qui aujourd'hui ont réussi malgré tout à venir à Gudumaria, dans le centre des radicalisations, des formations professionnelles et des réinsertions sociales,
ils sont en train de bénéficier de la formation, ils vont avoir un accompagnement et ils vont se réinsérer, ils vont aller s'installer, sans doute pas dans les villages où Boko Haram peut opérer, mais ils vont s'installer dans les grands centres urbains où ils pourront compter sur la protection de l'État, dans les États du Niger ou du Nigeria ou du Tchad. En tout cas, ils vont s'installer dans des endroits. Mais il est évident que si Boko Haram avait l'occasion, ils leur demanderaient de compte et le mouvement procéderait même à leur exécution. C'est pour cette raison, je pense que la réinsertion sociale, la formation professionnelle sont accompagnées par un certain nombre de précautions que l'État du Niger met en place pour éviter les représailles contre ceux qui ont choisi de quitter les rangs de Boko Haram.